Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve demain pour un nouveau carnet de la création. Bonsoir à toutes et à tous. La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Ce soir, Sandra, Adam Corallet et Harry Bellet se font face. Une première pour vous, Sandra. Bienvenue. Puis je rappelle quand même à nos auditrices et auditeurs qu'ils peuvent vous retrouver tous les dimanches de 14h à 15h avec Jean Deloisy dans l'émission Les Regardeurs sur France Culture. Donc votre voix leur est déjà familière, mais pas encore dans la dispute. Donc ça c'est une première ce soir. À notre affiche pour cette première, un film, Le Mystère Jérôme Bosch, un documentaire de José Luis López Liñares qui est sorti aujourd'hui sur les écrans. Et puis Soulèvement, l'exposition de Georges Didi Huberman au musée du Jeu de Paume. Nous évoquerons également, plus rapidement, l'exposition de Théo Mercier au musée d'art contemporain de Marseille. Et puis, nous parlerons d'Eugène Delacroix. Vers 21h20, Lucille Comeau nous entraînera dans son petit salon pour débattre d'un sujet en lien avec l'actualité dont nous parlons ce soir. Et puis bien sûr, des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des places de cinéma pour le film Taang de Wang Bing, sorti aujourd'hui sur les écrans. Si vous n'avez pas d'avis encore sur ce film, vous pouvez réécouter utilement l'émission d'hier soir dans laquelle nous avons dit le plus grand bien de ce film. Et nous ouvrons cette émission avec un film, une fois n'est pas coutume, mais il n'est pas si fréquent non plus qu'un documentaire consacré à un artiste plasticien sorte en salle. C'est le cas avec ce documentaire de José Luis López Liñares, réalisateur espagnol. Le film s'appelle Le Mystère Jérôme Bosch, qui convoque nombre de spécialistes et de non-spécialistes, essentiellement autour du Jardin des Délices du peintre mort il y a tout juste 500 ans.
Wonders, human wonders, animal wonders, phantasmal animals, and you never know whether they really exist or only exist in the imagination. Immediately when we look at the interior, we start dreaming.
Muchas de estas cosas las ha soñado, pero muchas las ha vivido y muchas las ha deseado vivir.
What kind of a man was he?
That painting has been standing there all these years, emanating its force, its soul.
Is chaos and painful and scary.
Recuerda mucho de los sueños de fiebre. Es como un gran día de fiebre.
The painting is asking you to participate, to investigate with your mind.
Enigma, it's one of the great enigmas. Can you explain this?
Voilà pour cette bande-annonce de ce film sorti aujourd'hui sur les écrans. Harry Bellet, vous nous avez parlé déjà par deux fois de Jérôme Bosch dans cette émission. Vous avez eu la chance de faire le doublé Bois-le-Duc Madrid.
Et le bonheur de voir le film.
Ah ça, c'est maintenant que vous allez nous le dire. Non, parce que à Bois-le-Duc et comme à Madrid, il y a eu de très très grandes expositions réunissant un nombre rare d'œuvres de Bosch.
Ben, on a presque tout vu, pas tout à fait, parce qu'il y en a qui voyagent plus, mais on a presque tout vu. Et puis là, ce film, j'y suis allé avec énormément de réticence et reculons. Pas tant parce que ça m'ennuie d'écouter les avis de Salman Rushdie ou de Michel Onfray, que je respecte tout l'un et l'autre par ailleurs, sur la peinture, que au nom de cette vieille ce vieux dicton qui dit que rien n'a jamais entendu plus de bêtises qu'un tableau accroché dans un musée. Eh bien, j'ai été très heureusement surpris.
Ah bon ?
Oui, parce que, non pas par la bande-annonce, que franchement, je dirais des gros mots si je devais la commenter, mais par la manière dont ça a été amené, c'est très intelligemment fait. L'histoire de l'art, pour dire des bêtises un peu plus informées sur un tableau, il y a des écoles pour ça, certains d'entre nous les ont pratiquées, ça s'enseigne, ça s'appelle l'histoire de l'art. Et puis là, il y a des historiens d'art qui parlent, il y a des artistes qui parlent, et ça m'a rappelé un livre fantastique qui est maintenant ancien, publié en 1972 par Pierre Schneider, qui s'appelait « Les dialogues du Louvre ». Pierre Schneider avait amené les artistes, Miro, Giacometti, Chagall, Sam Francis, au Louvre, et chaque artiste choisissait un tableau et le commentait. Là, l'exercice est un peu plus compliqué, parce que c'est le Jardin des Délices de Jérôme Bosch qu'il s'agit de commenter. C'est probablement une des œuvres les plus compliquées qui soit, il y a une foultitude de détails, et on a des artistes qui interviennent, qui à mon avis sont au moins aussi compétents que les historiens d'art pour parler de peinture. Il y a Miguel Barcello, Isabelle Munoz, José Manuel Ballester, Kai Kuo-Kiang. Alors ça c'est très intéressant.
Artiste. Vous le connaissiez, bon ?
Oui, je le connais en vrai. Oui, je l'ai même vu en vrai. Il existe. Il avait fait un très joli feu d'artifice en plein jour dans le désert à Doha. Des couleurs fantastiques dans le ciel.
L'idée me plaît, là.
Oui, c'était sympa. Ouais. Et alors, c'est le point de vue là d'un asiatique. Mm-hmm. Et donc, ils ont une vision de l'espace qui est pas tout à fait celle des Européens.
Du temps aussi.
Une perspective très différente. Et puis 5 000 ans de culture pour l'appuyer derrière. Et donc, ils regardent ce tableau comme ils regardent les rouleaux de peinture chinois, qui sont des peintures qui se voient pas, mais qui se lisent, qui se déroulent, et qui se lisent comme on le lisait autrefois les rotulis. Il y a aussi quelques historiens d'art, il y a Philippe de Montebello qui a dirigé le Metropolitan, Falkenburg, Büttner, Klein, enfin bon, il y a des gens sérieux, je veux dire, les peintures de ceux que j'ai cités précédemment. Je croyais connaître un peu Jérôme Bosch, vu que j'ai vu les deux expos, puis que j'ai lu le catalogue raisonné, j'en ai encore appris d'autres. Dans ce film. Et ça, c'est toujours agréable d'apprendre des choses sur toi, mon âge. J'ai appris, par exemple, que si le tableau est à Madrid aujourd'hui, c'est parce que Philippe II l'a acheté, ce que je savais, mais je ne savais pas que c'est le duc d'Albe qui, lors de la répression des mouvements protestants dans les Pays-Bas, est allé le voler. Et il le voler, mais pas tendrement. C'est-à-dire que
ils y tenaient véritablement.
Ah, vraiment, le tableau était caché dans le château des ducs de Nassau, je crois, qui s'était planqué pour l'occasion, eux aussi. Mais ils ont capturé le malheureux portier qui savait où il était. Ils lui ont arraché les ongles des mains et des pieds jusqu'à ce qu'il veuille bien dire où le tableau était. Donc il y avait une vraie envie, ce que les Allemands appellent un Kunstwollen, une volonté d'art. Hein, on sentait que ce tableau plaisait déjà. Bon, non, c'est il y a aussi
trois petits points. Je reviens vers vous.
Oui.
Mais laissons la parole à Sandra Dangourale pour avoir son premier regard. Merci, et son Harry. Premier avis.
Je n'allais pas pouvoir en placer.
Non, mais bon, ça c'est Harry. Bon, c'est le bizutage.
Moi, je suis ravie. Je vous écoutais avec attention. Mais c'est vrai.
Je m'écoutais avec attention.
C'est vrai que moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que d'emblée, le film il se place sous le signe des regardeurs. Alors évidemment,
ça me parle.
Le film commence. Il commence de manière originale. D'ailleurs, déjà dans ses premiers plans, puisqu'on voit le tableau en flou et qu'on a un premier plan séquence, en fait un enchaînement de plans sur les visages des personnes qui sont en train de regarder le tableau. Donc,
des
c'est
visiteurs
vrai que
lambda là pour le coup. Hein,
des visiteurs lambda et petit à petit on glisse sur historien d'art, etc. Et alors moi il y a quelque chose qui m'a agacée d'ailleurs quand j'ai vu le film, c'est que petit à petit on perd le nom des intervenants ou alors ils sont très peu ou mal identifiés. Et alors ça m'agaçait beaucoup de ne pas savoir qui parlait, même si évidemment on connaît un peu certains artistes, on les reconnaît, on reconnaît certains historiens, certaines paroles.
Oui, alors non, la première fois qu'ils parlent et puis après, c'est
la première fois
ou
même ou en tout petit, enfin on devine très mal.
Il faut pas cligner des yeux. Quoi,
évidemment, on devine parfois que c'est plutôt un neurophysicien qui parle plutôt que ou un musicien plutôt qu'un historien. Mais voilà, donc au début ça m'agaçait beaucoup et en fait je me suis rendu compte que ce défaut était un des points forts en fait du film parce que petit à petit, on oublie les préjugés qu'on pourrait avoir sur le point de vue d'où partirait le commentaire de celui qui regarde l'œuvre. Et petit à petit, on on s'y fond, en fait, et peut-être on peut plus facilement s'y identifier. Mmh. Et donc c'est assez intéressant. Et c'est à la fin, en fait, j'ai compris que c'était finalement voulu de la part du réalisateur, puisque à la fin, le réalisateur fait une présentation en bonne et due forme, si je puis dire, de chaque intervenant avec nom,
de ses qualités
et fonctions. Mmh. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des hypothèses fortes de ce film, qui est que le tableau finalement, c'est un chef-d'œuvre parce qu'il fonctionne en chacun de nous et que il est polysémique et chaque lecture finalement apporte du sens, l'addition des regards comme un grand tout qui fait le sens du tableau.
Alors c'est vrai que moi j'ai un regard un peu différent encore que le vôtre. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Lucille Comeau, le mystère Jérôme Bogement. Vous ferez vos devoirs pour la semaine prochaine. Vous ne pouvez pas tout voir non plus. J'étais un peu déçu, moi, face à ce film. Alors, non pas qu'il soit blâmable dans son sujet, au contraire, hein, parce que vraiment, je trouve ça formidable qu'un film sorte sur grand écran consacré à Jérôme Bosch. Mais enfin, le titre est un peu mensonger. C'est pas le mystère Jérôme Bosch, c'est le mystère des Jardins des Délices de Jérôme Bosch. Donc déjà, c'est quand même pas tout à fait la même chose, même si d'autres tableaux sont cités. Le mystère, il est quand même très très grand autour de l'homme, et on n'en perce quand même pas grand chose, ce qui est bien normal, parce qu'on n'en sait pas grand chose, à commencer par sa date de naissance, qui reste incertaine. Alors c'est vrai qu'il y a toutes sortes d'autorités, alors quand même qui sont plus ou moins compétentes. J'avoue que les quelques phrases retenues, vous citiez Michel Onfray, sont peut-être pas non plus gravées dans le marbre des écoles d'art. Mais il n'est pas le seul, hein, dans ce cas-là. Même si j'entends bien ce que vous dites, Sandra, c'est un tableau qui parle à tout le monde et donc tout le monde exprime une parcelle de ce que l'on peut y ressentir. Après, il y a des gens qui font plus de phrases que d'autres, puis la technologie aussi mise à contribution, puisqu'on voit certains repentir. Ça, c'est intéressant. Toujours la radiographie, les rayons X et toutes ces procédés. Non, ce qui est terrible avec ce film, c'est qu'on n'a qu'une envie, c'est de retourner à Madrid ou d'y aller pour voir ou revoir le tableau. Parce qu'en fait, on se dit, moi, je me suis dit, je n'ai pas passer assez de temps physiquement, moi, comme individu, devant ce tableau. Donc, il faut partir à Madrid. Qu'est-ce que vous en pensez, Harry ?
Ah ben, de toute façon, Madrid, c'est tout. Et le Prado, c'est probablement le plus joli musée du monde. Donc, ouais. Plein de bonnes raisons d'y aller. Il a été publié dans les années 80 un livre. J'ai oublié l'auteur, j'ai oublié l'éditeur, mais c'était des tout premiers livres d'art que j'ai achetés qui représentaient le jardin des délices à l'échelle 1, page par page.
Ah ouais ?
Ouais. Je l'ai encore. Je vous le prêterai. non, mais pour remonter sur ce que vous veniez, il y a une phrase que j'aime beaucoup et c'est probablement un des personnages je le connaissais pas. C'est à ma grande honte les plus attachants de ce film parmi les intervenants. Cess Notboom, écrivain. Ah, un
magnifique écrivain. Je vous invite à le lire.
Qui termine en disant ce que voit la plupart des gens, c'est eux-mêmes. Mmh. C'est exactement ça. Mmh. Et c'est probablement ça qui rend le film assez attachant et subtil. Et on pardonne du coup à Michel Onfray et Salman Rushdie de dire des bêtises dessus. Mais il y a aussi... Enfin, pas que. Non. Mais non, il y a aussi des moments où je me demandais, mais qu'est-ce que fait la dame à la licorne dans ce film ? Ça n'a rien à voir. On est au musée de Cluny, on est devant une tapisserie. Et puis Elisabeth Taburet Delay, la directrice du musée de Cluny, qui dit, au Moyen-Âge, on n'est pas cartésien. La polysémie, c'est quelque chose de parfaitement admis et quotidien. La multiplicité des significations. Et donc les hommes et les femmes du Moyen-Âge, je cite, acceptaient des significations qui, pour nous cartésiens, peuvent s'opposer, mais qui, pour eux, se complétaient. Mmh. Et donc, on est tout à fait dans le... C'est très, très habilement amené. C'est-à-dire que, on justifie par la pensée médiévale, celle qui a présidé la création du tableau, le mode de construction du film. C'est vraiment pas con.
Ah non, c'est vraiment pas con.
On est vraiment pas bête.
Pas bête.
Et puis, c'est une façon très, très, très habile d'amener le sujet. Et de même, on a des bibliothécaires qui... commente des manuscrits de la même façon que au Moyen-Âge on avait des lettrés qui commentaient les manuscrits. C'était la disputatio en Sorbonne, qui ce qu'on fait, la dispute, hein, la disputatio,
ça vient de là,
oui, qui à l'époque était suivi par la potatio, qui se passait au bistrot d'en face. Mais bon, les traditions se perdent.
Mais ce qu'on voit aussi, c'est un des plaisirs de ce film, Sandra Dancorale, c'est le côté avant-gardiste de Bosch. Et on voit à quel point aussi, bon, c'est une œuvre de commande, comme c'était généralement le cas à cette époque, et à quel point on peut répondre à la commande, on peut prendre quand même, avoir certaines audaces, mais pas trop quand même. Enfin, le film parle de ça aussi.
Oui, et d'ailleurs, c'est un tableau qui a été beaucoup admiré au XXe siècle et qui est très moderne. D'ailleurs, moi, je trouve que l'avantage de ce film, tout simplement, déjà, c'est la redécouverte d'un chef-d'œuvre qu'on connaît tous par son iconographie très étrange et en même temps qu'on connaît très mal parce que chaque détail est symbolique, on l'a dit, mystérieux, caché. On a du mal à identifier, et malgré tous les intervenants du film, d'ailleurs, on a du mal à donner un sens à chaque symbole. Mais peut-être que, comme vous le disiez, Harry, c'est quelque chose de propre, finalement, à cette pensée symbolique du Moyen-Âge qui restera toujours un peu mystérieuse et qui est là, peut-être, pour ouvrir le sens. Peut-être que c'est la définition aussi de cette forme de symbolisme. Et c'est vrai que cette œuvre donc, a été admirée par beaucoup d'artistes modernes. Je pense à Breton, à tous les surréalistes.
Ah oui,
ils
ça,
en étaient fous.
Ça, on sait que Dali l'a bien regardé. Il n'y a pas de doute.
Tout à fait. Il y a un moment assez... en fait, il y a des anecdotes moi, que je trouve amusantes dans le film. Et notamment, à un moment donné, il est fait un parallèle entre donc, ce jardin des délices qui occupe surtout le panneau central. Peut-être qu'il faut rappeler aussi aux auditeurs la structure du tableau. Sur le panneau central, donc, une sorte de jardin où il existe donc un jardin où sont convoqués des hommes et des femmes nus qui s'adonnent à divers divertissements.
Il y a beaucoup d'animaux.
Il y a beaucoup d'animaux, surtout des oiseaux,
des
il y a
fruits.
Des fruits géants. Voilà,
tous les plaisirs sont convoqués.
Exactement, une forme de débauche que compare en fait dans le film le réalisateur à Woodstock ou ce
oui,
sort
oui, très
de, ces genres de festivals. Oui, et moi j'aimais beaucoup. Et d'ailleurs il y a un intervenant qui dit d'ailleurs pour le spectateur profane le paradis se trouve au centre.
Ouais.
Je trouvais ça assez amusant. Voilà, de ramener cela à cette modernité en fait peut-être qui nous touche. Autrement aujourd'hui.
Et alors, pour continuer, panneau de gauche, le jardin d'Éden.
Alors, panneau de gauche, c'est le jardin d'Éden où on voit Adam et Ève avec le Christ qui se trouve dans le paradis.
Alors, Dieu à la figure du Christ.
Dieu à la figure du Christ. Donc,
sur ce tableau, c'est déjà très complexe.
Un tas d'hypothèses d'ailleurs qui sont développées dans le film.
Il a d'abord peint plutôt un vieillard à barbe blanche qui s'est repenti.
Oui, grâce au repentir, à la radiographie.
On peut voir qu'il a changé ce visage en un visage qui est un visage plus christique.
D'ailleurs, contrairement à ce que vous disiez, pardon de vous contredire tout à l'heure, je trouve pas que ce soit que des interprétations nébuleuses, c'est-à-dire qu'on passe vraiment par toute une sorte de,
pardon,
de regard et de mise en contexte savante aussi. C'est pas seulement des points de vue d'artiste, des points de vue d'écrivain. Il y a aussi toute une mise en contexte qui est très documentée. On passe de l'étude de la pensée religieuse de l'époque, à la question de la morale, la question de la destination. Est-ce que c'était une œuvre de délectation? Est-ce que c'était une œuvre justement qui était là pour rappeler les péchés à celui qui regardait ce tableau. Et puis le déchiffrage de certaines partitions de musique même qui sont visibles dans le tableau. Je trouve qu'on apprend
René
beaucoup
Fleming
de choses
chante,
quand même.
C'est très chic. Alors panneau de droite, c'est l'enfer, l'horreur,
on est habitué désormais,
la noirceur.
Alors c'est ça qui est amusant, c'est que le tableau est commandé à Jérôme Bosch par Engelbert de Nassau pour l'édification de ses fils. Hein, ou tes neveux, et il va être, d'après le film, regardé pieusement et longuement par Philippe de d'Espagne pour penser justement à ce qui l'attend après sa mort. Donc on a déjà deux interprétations différentes chez les deux premiers propriétaires. C'est assez joli, donc on peut effectivement se poser la question de... C'est aussi un tableau qui a changé de titre souvent. Il s'appelait La variété du monde d'abord, c'est le premier nom sous lequel on le connaît, puis après il s'appelait Les fraises. Vous ne demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Mais c'est très joli de l'appeler.
Il y a quelques fraises représentées dans le tableau.
Un fruit fragile et qu'on doit manger tout de suite.
Oui, c'est un fruit qui pourrit très vite. Je pense que c'est lié.
Il faut profiter tout de suite du plaisir.
Exactement.
Quand il s'offre à vous.
C'est votre interprétation.
Bon, c'en est une, je la rajoute. Je la mets au pot. Un dernier mot encore de Sandra.
Et quand même, pour finir sur cette histoire de point de vue du regardeur, en fait, qui est adopté, j'y reviens, par le réalisateur, il y a une anecdote aussi que je trouve amusante. C'est une femme, alors j'ai oublié son nom, qui raconte qu'avant, au musée du Prado, un gardien, toute la journée, ouvrait et fermait l'œuvre, parce qu'il faut rappeler que c'était un tableau qui était fait pour être montré ouvert, avec ses deux panneaux de gauche et de droite ouverts, et fermé, et sur le verso donc des panneaux apparaît une sorte de grand globe terrestre transparent sur la création du monde. Donc la mise
dans les
en
nuances
scène,
de gris en plus,
exactement.
Alors, quand on l'ouvre ça éclate
c'est
de couleurs.
C'est assez extraordinaire, et donc la mise en scène du regard, elle était aussi prévue par Jérôme Bosch, donc je veux pas...
Et ça a duré assez longtemps, puisque effectivement cette femme qui intervient dans le documentaire dit que quand elle était elle plus jeune, tous les matins au Prado...
Oui, je trouve dommage que ça ne se fasse plus.
Et on a une image d'archive de cet homme au gant blanc qui ouvre. Ah oui, je suis bien d'accord avec vous. L'ouverture du triptyque, c'est quand même pas mal d'assister à cela. Bon, bah voilà, beaucoup de raisons d'aller voir ce film, hein, que vous avez donné envie, j'imagine, à un grand nombre d'aller voir. Le mystère Jérôme Bosch, c'est signé José Luis López Liñares. C'est sorti aujourd'hui sur les écrans français.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure de Georges Didier Huberman, mais aussi de Théo Mercier, d'Eugène Delacroix. Rien que cela, avant cela, c'est Lucille Comeau, c'est le quatuor dans l'ordre. Quarté, ça doit être quarté quand il y a quatre vedettes à l'arrivée. Lucille Comeau, qu'on suit dans le petit salon. Bonsoir, véritablement, Lucille Comeau.
Bonsoir, Arnaud, je vous ai interpellé
tout à l'heure, vous m'avez fait un signe pour me répondre que vous n'aviez pas encore vu ce mystère Jérôme Bosch. Mais par contre, parce que votre esprit est plein de questions, nos auditeurs le savent,
oui. À quoi sert le prix
Marcel Duchamp, Lucille?
Alors, le prix Marcel Duchamp, déjà, c'est une distinction qui a été créée assez récemment, en 2000, à l'initiative de collectionneurs français et de l'ADIAF. Alors, l'ADIAF, c'est l'Association pour la diffusion internationale de l'art français. Le prix est remis tous les ans pendant la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain, dont la dernière vient de s'achever le 23 octobre dernier. Cette année, le prix Marcel Duchamp est revenu à Kader Attia, qu'il avait manqué de peu puisqu'il avait déjà été en finale en 2005. Kader Attia est un artiste français qui réside et travaille surtout aujourd'hui entre Berlin et Alger, qui a commencé par la photographie. Aujourd'hui, il réalise toujours des photographies, mais surtout des installations, mais aussi des dessins. C'est un artiste qui est travaillé par la question postcoloniale, par la rupture entre les deux rives de la Méditerranée. Il a une autre actualité en ce moment, puisqu'il vient d'ouvrir ces derniers jours un restaurant et un lieu de débat baptisé La Colonie, le mot est barré, à côté de la Gare du Nord à Paris. Alors, à quoi sert le prix Marcel Duchamp? Déjà, pour l'artiste, ça sert à gagner de l'argent, à être soutenu pour une œuvre future. La dotation, c'est quand même 35 000 euros. Et par ailleurs, la DIAF s'engage à participer à un projet à hauteur de 30 000 euros. Ça sert aussi à être reconnu à un moment de grand raout international sur la scène de l'art contemporain. Et puis enfin, ça sert à représenter la France dans un contexte délicat pour le marché de l'art français. On a reproché cette année à la directrice et commissaire de la FIAC, Jennifer Flay, la présence indigente, selon certains, des galeries françaises dans la grande allée la plus en vue de la FIAC. Elle s'est défendue de ce reproche, notamment en reconnaissant que la France de l'art contemporain n'était pas au mieux de sa forme et qu'il était plus juste, selon elle, de réserver ses places à des galeries plus créatives. Le prix Duchamp et l'exposition qui va avec est donc un moment aussi de valorisation de la création nationale. Alors parlons-en justement de cette exposition des finalistes. Pour la première fois, elle a eu lieu non pas à la FIAC mais au Centre Pompidou, renforçant le rôle de l'institution dans l'organisation et le choix des artistes et resserrant les liens entre la DIAF et l'institution publique. On peut se demander si ce rapprochement n'est pas aussi un des symptômes de la course effrénée que le Centre Pompidou mène depuis quelque temps au financement privé. Bref, il y a bien des enjeux derrière ce prix Duchamp et pas seulement pour les artistes.
Alors, on va essayer d'en connaître un peu mieux certains de ces enjeux. Utilité du prix Marcel Duchamp. Sandra Dangoralé, vous vous lancez?
Utilité, évidemment, c'est une entrée peut-être plus rapide déjà dans les collections publiques. C'est une notoriété qui est très institutionnalisée tout d'un coup pour l'artiste. Voilà, moi je trouve que c'est une bonne chose. J'aime bien moi l'idée que les quatre artistes cette année finalement soient exposés ensemble. Il y a une forme de dialogue. En plus, il y a un commissaire. Qui fait cette exposition et qui relie les œuvres autour de cette question du rituel, de la mort. Je trouve que c'est assez intéressant que les quatre soient montrés
C'était le cas auparavant, mais c'était dans le cadre de la FIAC.
Beaucoup plus grand, puisque auparavant, donc, le lauréat a gagné une exposition au Centre Pompidou dans l'espace 315, et maintenant les quatre nominés sont montrés à la Galerie 4, qui est beaucoup plus grande, parce que je crois qu'elle fait 600 mètres carrés.
Alors au Centre Pompidou. 315 fait 315 mètres carrés.
Exactement.
D'où son nom. C'est bien trouvé. Non, mais il faut le rappeler, parce que on ne vient pas toujours avec un décamètre visiter les expositions. Harry Bellé, qui se rapproche toujours du micro. Heure et malheur du prix Marcel Duchamp, son évolution, il est vraiment inscrit dans le paysage, c'est certain. Les nominations, c'est toujours un moment de surprise aussi. Il y a des enjeux divers qui agitent ce prix.
Bah, pas tant que ça.
Non.
Non. Alors j'en suis désolé parce que c'était bon, c'est bien de faire des choses. La DIAF fait un boulot remarquable, présidée par Gilles Fuchs, qui est un collectionneur plus qu'actif. Mais j'avais eu l'occasion de discuter avec lui un peu avant la création du prix. Il avait le privilège de l'âge, encore une fois. Et je lui avais dit, mais est-ce que vous envisagez de travailler, parce que le modèle c'était le Turner Prize, le prix Turner qui est attribué chaque année à la Tate, et le prix Turner est vraiment, alors là médiatiquement, à quelque chose de fantastique. C'est retransmis sur Channel 4, la télévision, une télévision britannique. Il y a une vraie, il y a même des bookmakers qui prennent des paris.
On prend des paris surtout en Angleterre, donc ça,
on
c'est
prend
pas...
des paris surtout, mais ce qui est intéressant, c'est que les bookmakers se trompent rarement. C'est-à-dire qu'on peut à peu près avoir une idée de qui va avoir le Turner Prize, simplement en suivant l'évolution des cotes, parce que il y a un peu de côté, quand même, un petit peu course de chevaux, qui est...
Entre le prix Turner, par exemple, et le prix Marcel Duchamp, c'est que le prix Turner, il y a un vote du public, ce qui n'est pas le cas pour le prix Marcel Duchamp.
Ah, très bien. Et c'est une proportion, c'est comme l'Eurovision, quoi. Il y a un peu de public, un peu de jury, comment ça passe ?
Il y a un vote du public et ensuite, il y a un jury, évidemment, des grands professionnels de l'art, ensuite. Mais en tout cas, la première sélection, c'est le public qui l'a fait, et ça, je trouve...
sur des propositions qui n'appartiennent pas au public quand même. C'est pas eux qui font
la liste. Le public réduit la liste, voilà. Et les professionnels choisissent dans cette liste réduite. Mais je ne le savais pas.
Mais en tout cas, ça a une diffusion. C'est des rockstars, les artistes contemporains. On les trouve même dans les tabloïds quand ils sont un peu connus au bout d'un moment. On a presque plus d'articles dans les tabloïds britanniques sur Tracy Emin ou des artistes de cette génération que dans les journaux dits sérieux. Et donc, c'est une visibilité médiatique que le prix Marcel Duchamp a toujours refusé d'avoir. Ça, c'était déjà la volonté de Gilles Fuchs à l'époque. Il voulait pas que ce soit une foire, un truc de sale travail. Il voulait pas que ce soit le
bazar.
Voilà, merci.
Mais le voudrait-il, le serait-ce ?
Et je ne sais pas.
Est-ce que ça passionnerait vraiment les foules françaises ?
Je ne sais pas. Pourquoi ?
Est-ce que Kader Atia va être dans Oops ou dans Closer ?
Mais je ne sais pas si ça fonctionne aux États-Unis. En Grande-Bretagne, pourquoi ça ne fonctionnerait pas en France ? Je ne comprends pas le désintérêt total de la radio-télévision diffusion française pour l'art contemporain, alors que ça passionne
c'est
réellement...
C'est bien que vous disiez ça dans un micro de la radio-diffusion française.
Alors que ça passionne totalement. Il n'y a pas d'émission de télé sur l'art en France. Il y en a trois en Angleterre. Comment pas ? Mais bon, après tout, ils doivent savoir ce qu'ils font. Voilà. Bon, pour le reste, pour les artistes, ça doit être un choc terrible. D'ailleurs, je pense que j'en reparlerai au moment où je vais évoquer le cas de Théo Mercier, que d'être dans cette espèce de course à l'échalote et de se demander qui va l'avoir. Sans compter que, comme dans tous les prix, et ça depuis, par exemple, l'attribution du Grand Prix de la Biennale de Venise, qui a maintenant un peu plus d'un siècle d'existence, on a la même chose. Des groupes de pression, des lobbies, des machins. Bon, est-ce que c'est si important que ça ? J'en suis pas certain. Mais c'est toujours bien d'avoir une expo, même dans 315 mètres carrés, au centre Pompidou.
Ouais, et puis la liste est quand même plutôt belle. Si on regarde depuis la création du prix Marcel Duchamp, il semble qu'il y ait quand même plutôt de bons choix, enfin, avec le plus d'objectivité possible quand on dit une chose pareille. Mais peut-être revenir sur une assise de cette chronique de Lucile Comeau. Les galeries françaises en petite forme cette année ? Est-ce que vous avez... vous n'avez pas parcouru assez les salons de la FIAC, Sandra Dancorale, pour vous exprimer sur ce sujet ?
Je l'ai parcouru, évidemment, peut-être un peu trop rapidement pour faire cette analyse... aussi fine.
Alors, Harry qui construit les stands quasiment.
oui, je plante les clous. Ouais. Non, les galeries françaises, elles marchent très bien. Mais pas toutes, hein. Les galeries en général sont en très grande forme quand elles sont puissantes et beaucoup moins quand elles débutent. Ça ferme à peu près aussi souvent que ça ouvre. Les galeries françaises ne sont pas différentes des autres. Elles font même plutôt du très très bon travail. Il y en a encore une qui vient d'ouvrir un espace à Londres, ce qui prouve qu'elles savent s'internationaliser. Exact. Donc non, les galeries françaises ne sont pas en cause. Simplement, le vœu de Jennifer Flake, qu'on le déplore ou qu'on le salue, c'est que sa foire soit internationale. Je crois qu'il y a 24 ou 25% de galeries françaises à la FIAC. C'est à peu près la norme dans une foire internationale d'avoir à peu près cette proportion de galeries nationales. Il y en a un peu moins à Bâle de galeries suisses. Beaucoup moins d'ailleurs. Un peu moins à Frise de galeries anglaises. Donc ça, c'est un faux procès. Par contre, qu'il soit assez mal géographiquement localisé, c'est vrai. C'est pas la première fois. Daniel Templon, on était assez vigoureusement plein l'an passé. C'est aussi un choix de la directrice de la FIAC que de considérer qu'on invite des gens qui viennent de loin, on leur donne la place d'honneur. Bon.
Un commentaire, ouais, en tout cas, la presse française parle beaucoup, beaucoup de ça. C'est vraiment la question de la représentation des galeries françaises dans la FIAC. C'est vraiment la question.
Oui, pas se retrouver dans un coin, mais plutôt dans la magnifique allée centrale.
Les fameux Champs-Élysées.
Les Champs-Élysées de la FIAC.
Le meilleur emplacement de la FIAC, c'est à côté des toilettes. Tout le monde le sait. Enfin, voyons, tout le monde y va.
Ou du bar.
Ça, il y en a trop.
Bon. Et je voulais juste souligner la notoriété en parallèle de d'autres foires, d'ailleurs, que tout le monde fait en même temps que la FIAC, comme Paris International.
Bien sûr.
Voilà,
qui s'affirme. Hein,
les gens qui vont à la FIAC vont aussi voir Paris International. C'est à noter peut-être aussi.
Absolument.
Ce développement parallèle.
Je ne vous ai même pas demandé votre sentiment personnel sur le choix de Kader Attia parmi les finalistes.
Non, je ne peux pas vous en parler, c'est un copain.
Bon, écoutez, c'est une réponse comme une autre. Sandra, d'Encouraler, par rapport
à... Moi j'aime beaucoup, c'est un artiste alors que je connais aussi, donc je ne vais pas m'étaler, mais que j'aime beaucoup. Très engagé, je trouve que c'est bien.
Un beau choix.
Un homme capable d'ouvrir un restaurant rue Lafayette ne peut pas être tout à fait mauvais.
D'accord, ce sera le mot de la fin de ce petit salon. Il est temps de découvrir les recommandations des critiques présents ce soir. Prenons notre temps pour écouter Sandra d'Encouraler nous parler doublement d'Eugène Delacroix. On va voir comment, Sandra.
Oui, il y a un lieu que j'aime beaucoup à Paris qui est ce petit musée, le musée national Eugène Delacroix, qui se situe 6 rue de Fürstenberger, dans le 6e, où il y a l'atelier de Delacroix, enfin un des ateliers de Delacroix, où Delacroix aurait passé un certain nombre d'années de sa vie. Et il y a une très jolie petite exposition, mais comme un petit bijou, autour d'une nouvelle acquisition du musée, qui est un portrait de Georges Sand par Delacroix, qu'il a réalisé en 1834, il me semble, qui montre Georges Sand en habit masculin, blafarde. Elle vient de rompre avec Musset, et c'est vraiment incroyable, cette peinture. Il faut aller au musée Delacroix juste pour voir cette peinture. Et donc, c'est le prétexte pour le musée de faire une petite exposition autour de l'amitié qui existait entre Georges Sand et Delacroix, qui se sont échangés des centaines de lettres, qui ont une amitié réelle, qui partageaient beaucoup de choses, notamment l'amour de Shakespeare, de Byron, l'amour de la musique. Voilà, c'est un très beau, très, très jolie petite exposition, un très beau tableau, donc ce tableau de Georges Sand. Et dans le musée de la Croix, pour finir, il se trouve que hors les murs de la FIAC, mais ça se poursuit jusqu'au 1er novembre, donc vous pouvez encore aller voir ces œuvres. Il y a des œuvres de l'artiste contemporain Stéphane Tidé, que j'aime beaucoup, qui sont montrées à la fois dans le jardin, musée de la Croix, donc c'est une grande œuvre en néon qui s'appelle Une histoire vraie, comme le seuil d'un moment fictionnel tout d'un coup qui apparaît, et puis une œuvre en bois sonore qui est montrée à l'intérieur du musée.
Et comment est-ce qu'elle interagit avec ce lieu-là, avec de la Croix? Pourquoi ce choix, selon vous, de Stéphane Tidé?
Je ne sais pas si c'est un. Il y a un réel. Il ne faudrait pas surfaire et surinterpréter le dialogue de la Croix avec.
Non, il pourrait exister.
L'artiste contemporain. Ce qui est assez joli, c'est que l'œuvre sonore, en fait, qui ressemble à une sorte de navette spatiale, vous pouvez imaginer, qui est montrée dans le musée de la Croix, l'œuvre de Stéphane, mais une navette spatiale en même temps en bois, un peu étrange, dans lequel un homme à peine peut rentrer, et dans lequel d'ailleurs Stéphane Tidé fait des performances sonores, et une sorte de cabane d'écrivain solitaire, et donc peut-être c'est ce côté écrivain solitaire Voilà, si je tirais le fil.
C'est une piste possible. En tout cas, on a bien compris qu'il fallait se rendre dans ce musée Eugène Delacroix, notamment pour ce tout petit portrait de Georges Sand que le musée vient d'acquérir. Et là, qui commence une donation? Est-ce que vous savez ça? Parce qu'on parle de la façon dont les collections peuvent s'enrichir ou pas. Je vous pose peut-être une colle.
Vous me posez une colle, mais ouais. On posera la question.
Comment tout d'un coup?
Je vous dirai ça la prochaine fois.
Avec plaisir. On prend date. Et puis, on va un peu mettre le cap au sud avec vous, Harry Bellet, du côté de Marseille, et précisément du côté du musée d'art contemporain, qui connaît des jours plus ou moins heureux. Hein, depuis, c'est un feuilleton, ce musée d'art contemporain de Marseille, depuis 20 ans et plus.
C'est un film catastrophe.
Ouais. Il bouge encore, c'est ça qui
est
important.
Oui, ce qui est merveilleux, parce que compte tenu des budgets qu'on lui attribue, je ne sais pas comment ils font. Mais ouais. Bon, ils sont gentils, ils font ce qu'ils peuvent, hein, avec rien.
Ouais.
Bon, enfin, quand rien, c'est Théo Mercier, ça va. cela dit, je pense que c'est l'artiste lui-même qui a repeint les murs, quoi.
Ouais.
Parce qu'ils n'avaient pas de quoi le faire eux-mêmes.
C'est une vraie malédiction sur ce musée.
Qui a connu des
heures magnifiques, avec Bernard Blisten notamment, ça remonte à quelques années.
Quand il était à la direction des musées de Marseille, oui.
Et avec d'autres, depuis.
Mais c'est quand même affligeant de créer des lieux et de ne pas leur donner les moyens de fonctionner. Je crois que le budget, je pense qu'il est inférieur à mon salaire annuel, quoi.
Vous gagnez énormément d'argent.
Mais pas à ce point-là. c'est ridicule.
Ah bah, c'est un grand lieu, en plus. Un grand et beau lieu. On peut faire de vraies belles expositions. On en a vu. Ah oui, il faut y aller.
Et puis il ne faut pas y aller à pied parce que c'est très loin. Puis il y a un bus qui va de temps en temps, mais vraiment de temps en temps.
C'est vrai que ce n'est pas le lieu idéal pour ramener les foules.
Bon, c'était un cadeau d'un collectionneur suisse, je crois, à la ville. On ne refuse pas.
Ah oui, en plus c'était un cadeau.
Oui,
d'accord.
On ne refuse pas un cheval donné, on ne regarde pas les dents.
Théo Mercier.
Théo Mercier, c'était. Moi, j'ai découvert ça un peu comme tout le monde, tardivement. Enfin, tardivement, non, parce que ce garçon est né en 84. Hein, c'est un peu l'enfant prodige. Il est très jeune. La révélation pour beaucoup d'entre nous, ça a été à la FIAC. Lorsque l'œuvre de Théo Mercier, c'est une espèce de gros bonhomme en spaghetti, un peu rondouillard, un peu sympa, faisait un peu penser aux dessins animés qu'on voyait autrefois à la télévision, avant que les Japonais n'arrivent. Un gros bonhomme fait en spaghetti. Ça s'appelle Le Solitaire et on était tous un peu scotchés là-devant. Il y en a un qui a été un peu moins scotché que les autres, c'est Antoine de Galbert qui l'a acheté tout de suite pour sa collection. Il a été montré tout de suite après au musée d'art moderne de la ville de Paris, Dynastie, et à l'époque je pense que Mercier devait avoir 25 ans. Un an avant, il était l'assistant de Matthew Barney à New York. 24 ans. Petit à petit, grimpe que ça, je crois, 2 ans ou 1 an après, il est à la Villa Médicis à Rome. C'est une espèce de comète fulgurante qui arrive comme nominé au prix Marcel Duchamp et là qui s'explose. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas lui qui l'a. Mmh. Je l'ai vu à l'époque. Il en était vraiment.
Il avait marqué le coup.
Ah ouais. Mmh. Mais pas qu'un peu. Enfin, au point qu'il a décidé de partir s'établir au Mexique. Et là, il revient. Et c'était déjà étonnant, mais là, c'est très, très bien. Parce que tout le côté, justement, Wunderkind, tout le côté, Libé l'avait titré Le Petit Prince, quand même, en 2003.
Mais le monde l'avait titré comment?
Il n'avait pas titré du tout. on était encore passé à côté. Mais nous publions le surlendemain les nouvelles de l'avant-veille. Et le gars, il a pris de la bouteille, il revient avec un peu les mêmes préoccupations, mais plus du tout la même façon de les présenter, avec un jeu notamment dans ses sculptures sur l'équilibre qui pourrait être vraiment celui, parce que tous ces assemblages sont posés, il n'y a rien qui est collé, il n'y a rien qui tient. Donc, si on éternue, ça tombe et le collectionneur est malheureux. Et donc, c'est un travail de sculpteur classique. Hein, vous savez, on travaillait la verticale toujours chez les sculpteurs classiques. Et puis, un travail lié à l'objet, à l'histoire de l'art, à l'archéologie, qui est vraiment étonnant et qui a plus du tout cet aspect très séduisant qu'il avait avant. C'est toujours très chouette. Mais, grosso modo, le titre de l'expo, c'est un programme. The thrill is gone. Le frisson a disparu. Hein, c'est-à-dire que lui-même prend conscience de la chose. Et ben, on frissonne moins, mais on réfléchit plus et on pense mieux. C'est vraiment formidable.
Ça, c'est un slogan à mettre sur l'affiche du Musée d'art contemporain de Marseille, où on peut découvrir cette exposition « The Thrill is Gone » de Théo Mercier. C'est jusqu'au 29 janvier.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Nous poursuivons cette dispute consacrée le mercredi soir aux arts plastiques avec une exposition dont le commissaire et le philosophe et critique d'art Georges Didi Huberman. Ça s'appelle Soulèvement, au pluriel, est au Jeu de Paume à Paris. Sandra Dancorale, vous avez eu l'occasion de recevoir Georges Didi Huberman sous cette antenne, aux côtés de Jean de Loisy dans Les Regardeurs. Alors, il y a une personne qui vous demande, mais de quoi ça parle, cette exposition Soulèvement? Vous répondez quoi?
Mon hésitation me trahit. Non, ça parle d'un ensemble d'œuvres réunies autour de ce geste d'espérance et de résistance à la fois, qu'est le soulèvement. Tout simplement, j'ai envie de dire. Et,
ouais, c'est bien.
Et c'est une exposition qui réunit des œuvres donc de Goya aujourd'hui. Ça vous va?
C'est un bon résumé. Et puis maintenant, on va creuser. Parce qu'effectivement, avec une accroche et une approche pareille, on imagine qu'il y a de quoi remplir 10 jeux de paume. Mais l'idée étant de faire des choix. Et puis il y a aussi ce travail au long cours de L'œil de l'histoire, la série de Georges Huberman publiée aux éditions de Minuit, le sixième tome apparu au mois de mars, celui-ci s'appelait « Peuples en larmes, peuples en armes ». Il y a cette idée aussi quand même de collecter, cher à Georges-Didier Huberman, comment s'organise l'exposition?
Alors, d'ailleurs, on aurait pu avoir peur que l'exposition soit très érudite et complexe, puisque quand on lit le catalogue, donc, qui est fait par ce cher philosophe Georges-Didier Huberman, il y a des textes de très haut niveau. Mais d'ailleurs, ce sont des très beaux textes, et notamment celui de Georges-Didier Huberman à la fin, que j'invite à lire, qui est vraiment magnifique.
Et Nicole Brenez aussi, et qui Nicole s'y connaît Brenez. En cinéma.
Exactement.
Et en révolte.
Exactement. Et du coup, j'avais un peu peur. Mais finalement, j'étais agréablement surprise par un accrochage finalement assez pédagogique, en fait, j'ai envie de dire. 5 parties, donc on peut les citer. Il y a les éléments déchaînés, les gestes intenses, entre parenthèses à chaque fois, les mots exclamés, les conflits embrasés et les désirs indestructibles. Et par exemple, dans la partie consacrée aux gestes, les œuvres sont regroupées, si vous voulez, en sous-parties assez simples. Il y a les bras qui se lèvent, les corps qui disent non, les bouches, etc. C'est donc un parcours assez sensible et intuitif. Voilà. Bon, parfois, personnellement, moi, je me suis un peu perdue. C'est-à-dire que peut-être que la scénographie est un peu homogène. Et donc, c'est vrai qu'on passe d'une salle à l'autre sans s'en rendre compte, parfois, j'ai envie de dire. Par contre, si je voulais souligner un passage réussi, peut-être, c'est cette salle où sont exposées les piques d'Annette Messager. Dans la même salle, il y a des bouches de l'artiste d'origine argentine, Graciela Sacco, et des sérigraphies du collectif new-yorkais Art and Language de 75, qui sont intitulées « Les hommes qui crient », où on voit une série de représentants des personnages, bras levés, bouche ouverte, d'où sortent des mots manuscrits. Et en fait, quand on est face au pic d'Annette Messager, on entend au loin la musique du film de Lorna Simpson, Easy to Remember. Donc on entend les fredonnements d'une chanson qui est dite bouche fermée. C'est assez beau, parce que c'est un moment de l'expo où on se sent emmené justement par la question du soulèvement, et on a l'impression qu'il y a une sorte de... alors vous allez me dire que je fantasme, mais de chants révolutionnaires ou de blues comme ça, qui est pour se donner du courage, qui est derrière. Ça, je trouve que c'est un passage assez réussi. D'ailleurs, la salle se termine par une très belle œuvre de Joren Gertz qui s'appelle Crier jusqu'à l'épuisement de 72. C'est une performance qui avait été tournée au Blanc-Ménil près de Paris En 72, on voit l'homme debout sur une montagne en train de hurler « Bonjour » face à la caméra. Et il continue de hurler jusqu'à ce que sa voix défaille, donc jusqu'à l'épuisement. Ça, je trouve que c'est vraiment une belle partie de l'exposition.
Bon, on reviendra vers vous peut-être pour une moins belle partie alors.
Oui, j'ai des nuances.
Ah, Harry Bellet, premiers sentiments et premières impressions.
C'est un travail formidable, évidemment, de recherche aussi, et un corpus immense qu'il aurait pu, d'ailleurs, et qu'il fait dans ses textes, qu'il aurait pu faire remonter bien plus loin. C'est vraiment, on commence au mi-temps du 19e siècle. Le mot émotion, au sens ancien du terme, c'est les émotions populaires, c'est les révoltes populaires. On peut remonter jusqu'aux révoltes paysannes, les jacqueries du Moyen-Âge. Je lui fais même remonter ça à la colère d'Achille dans un autre texte. Donc c'est effectivement, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir tout mis. Toutefois. Toutefois, nonobstant. Moi, c'est une expo qui me laisse dubitatif. Donc le travail, formidable. On peut le faire remonter très loin, formidable. Mais c'est la vision, et je ne lui en veux pas, d'un homme de gauche. Pas oublier quand même que la marche sur Rome, c'est un soulèvement. Mussolini, c'est un soulèvement. Que le franquisme, c'est un soulèvement. Et bien tout ça, c'est pas abordé du point de vue des franquistes, du point de vue des fascistes, du point de vue... C'est son choix, il s'en explique d'ailleurs en disant « c'est pas mon travail », il a dit ça comme ça, « c'est pas mon travail de montrer des gens qui lèvent la main dans un salut nazi, ce que je respecte », mais déjà, on évacue une partie du corpus au profit d'une vision presque romantique du soulèvement. Et ça, j'en ai... Alors, pour une fois, j'ai aimé une photo.
Oui, mais ça, vous soignez peu à peu dans cette émission. Hein,
mais je pense que je finirai...
Rappelons que
je finirai
vous avez du mal avec la
d'argent,
photo.
Ou l'acide acétique. C'est celle de Gilles Caron qui fait la couverture du catalogue et je crois l'affiche de l'exposition, qui représente deux jeunes gens saisis dans un mouvement de danse ou de golfeurs en train de faire leur putting. Et en fait, pas du tout. Ils envoient des cailloux sur la tête des gens d'en face, bon, c'est un grand classique. Hein. C'est des jeunes gens blonds ou roux. La photo est en noir et blanc, c'est pas trop. Plutôt bien coiffés, plutôt bien habillés. Et on se dit, ah, quelle belle jeunesse qui se soulève. Bon, elle se soulève effectivement, mais c'est une manifestation orangiste en Irlande du Nord. Et les cailloux, ils les envoient sur la tête des catholiques d'en face. Bon. C'est la seule.
D'où l'hypothèse de la rousseur. Bon,
oui, en Irlande, quand ils sont.
Ça arrive.
C'est une photo noir et blanc. Quand les cheveux sont pâles, j'imagine que.
Mais c'est sur cette idée de lancer de pierre, Intifada,
Intifada, il n'y a pas.
Mais justement.
C'est pour ça que je voudrais terminer quand même sur cette. Une fois que j'ai mis une photo, permettez-moi d'en parler.
Ah bon, pardon.
Moi, les manifestations orangistes, j'ai connu, encore une fois, privilège de l'âge.
C'est pas Guillaume d'Orange.
Non, je parle des.
Non, enfin, on parlait de Bosch.
Bon. Je parle de ce qui se passait en Irlande dans les années 80, notamment. Oui. Enfin, la photo date de 69, mais bon, ça n'a pas beaucoup changé d'une période à l'autre. Donc j'étais plutôt. Pardon de parler de ma vie, mais j'étais plutôt de l'autre côté, à prendre les cailloux sur la tête. Bon, d'ailleurs, j'y étais. Mais c'est ce qui me gêne dans cette expo. C'est l'expérience que j'ai, moi, ancienne, certes, mais des soulèvements, c'est que la vision qu'il en donne est une vision extrêmement esthétique. C'est beau, un soulèvement. Ben non, c'est pas beau, un soulèvement, parce qu'on se prend les cailloux sur la figure, parfois on se fait tirer dessus. Et alors, c'est pour ça que je regrette, par exemple, il y a beaucoup d'absents dans cette expo, mais je regrette l'absence de quelqu'un comme Olivier Blanquart. Mais oui. D'ailleurs, il la regrette aussi. Il m'en a parlé.
Olivier Blanquart, il regrette souvent son absence dans les expositions.
Oui, mais là,
bien ce que vous
là,
dites.
Là, il était parfaitement à sa place, si ce n'est que il fait pas dans l'esthétique, lui. Il fait dans la dénonciation. Alors, s'il y a quelqu'un qui est insoumis, c'est bien lui. Il y avait
insoumis.
Non, insoumis. Oui, en un seul. Non, mais je pense notamment à sa sculpture en hommage à Carlo Giuliani. C'est le jeune Italien qui s'est fait tuer d'une balle dans la tête par la police à Gênes en 2001, le 20 juillet 2001, pendant une manif contre le G8. Bon, j'ai accessoirement fait rouler dessus deux fois par la Jeep des policiers qui l'avaient ensuite tué. C'est ça, une insoumission. C'est ça, une révolte. C'est ça, un soulèvement. C'est des mômes qu'on envoie au casse-pipe. Et qui souvent ne s'en relève pas. Et ça, c'est une chose qui me gêne. En dehors de l'esthétisme qu'il donne à la révolte, ça fait une belle expo, c'est certain. Mais ce qui me gêne, c'est l'irresponsabilité, et je pèse mes mots, des gens qui vous disent « soulevez-vous » et qui sont généralement assez loin quand ça commence à tirer.
Sandra Dancorale.
Alors moi je suis pas complètement d'accord puisque je trouve qu'il y a une vision assez dure qui ressort de cette exposition. Mmh. C'est-à-dire que le soulèvement, et d'ailleurs c'est comme cela que le définit Georges Didier-Berman, c'est un débordement de puissance qui échoue à prendre le pouvoir. Donc finalement ce sont souvent des photographies. Alors désolé Harry, mais effectivement c'est une exposition essentiellement de photographies puisqu'on est quand même au jeu de paume, qui est un lieu qui montre surtout la photographie et le film. Et du coup, il y a surtout des... Moi, je trouve des tentatives, des entreprises vaines, en fait, qui sont montrées dans cette exposition. Et c'est un peu ça qui m'a manqué. C'est que, d'une manière générale, donc c'est une exposition d'images, de gestes de soulèvement, mais il manque la joie, en fait, la joie du geste et peut-être la jouissance à se soulever. Moi, je ne l'ai pas vraiment ressenti.
Mais sur l'esthétisation, on en parlerait.
C'est à chaque fois très contextualisé, donc je suis pas complètement d'accord. Ou alors j'ai trop bien lu le catalogue, peut-être. J'étais
pour
trop
bien
bonne élève.
Votre émission.
J'étais trop bonne élève, mais c'est vrai que je ne trouve pas qu'il y ait une esthétisation. Le discours est quand même assez dur. Il y a des images qui sont commentées, des images indispensables. Il y a une sorte de devoir de mémoire assez lourd, d'ailleurs, je trouve, tout le long de l'exposition. Donc ça m'a pas manqué. En tout cas, j'ai l'impression qu'on traverse et qu'on comprend quand même qu'on traverse différentes étapes historiques. C'est peut-être pas assez documenté dans l'exposition. C'est vrai que j'étais peut-être un peu prise dans
Vous
la tête.
Vous avez fait vos devoirs avant, voilà. À la maison.
Exactement. Mais je trouvais justement qu'il manquait cette jouissance du soulèvement. Et d'ailleurs, alors je peux pas m'empêcher de parler d'une autre exposition qui s'appelait Soulèvement, qui était l'exposition de Jean-Jacques Lebel, qui a été faite à la Maison Rouge en 2009. Alors c'était pas du tout le même genre d'exposition. C'était un propos différent. C'est une exposition engagée réalisée par un artiste, mais qui montrait aussi, et ça je trouve que ça manque, que les formes se soulèvent aussi. Et ça, je trouve que ça manque un peu dans l'exposition.
C'est ce qu'on voit dans l'exposition Provoque au bal, pour parler de notre type de soulèvement, ce qui s'est passé au Japon dans les années 60-70. Voilà. On voit comment d'une révolte et d'un soulèvement politique, ça change les formes, notamment photographiques, pardon Harry. Mais Provoque, à cet égard, je trouve très remarquable.
Et inversement, par exemple, un artiste comme Shiraga du groupe Gutai au Japon, donc artiste performatif, lorsqu'il engage son corps sur la toile, c'est une rupture avec les conventions traditionnelles de l'art, avec une forme, mais c'est aussi un geste politique, c'est un geste révolutionnaire, c'est la liberté de la créativité après la chape de plomb de la dictature militaire et le traumatisme de la guerre de 45 au Japon. C'est dans les deux sens.
Harry, Bélé.
Dans le cas de Shiraga, c'est un peu particulier parce que c'est aussi un moine bouddhiste.
C'est vrai, pour de vrai. Tout à fait.
Et qui répond à des normes en peignant avec les pieds accrochés à une corde qui sont celles du bouddhisme ésotérique japonais. Donc c'est pas seulement pour emmerder les gens qui peint avec les pieds. Non, c'est aussi parce que c'est un lien entre le ciel par la corde et la terre par les pieds. Mais non, il y a des. En fait, ce que je regrette, mais je regrette pas. Je ne vais pas regretter la pensée de Didier-Berman, elle est tout à fait honorable, ce qu'elle est. Mais sur l'aspect festif dont vous parlez...
Ou jouissif,
et il en parle, justement. Oui. Il en parle dans un article qui est assez intéressant.
Il en parle dans le catalogue, c'est
vrai. Il en parle aussi dans un article qui est publié, pardonnez-moi de faire de la publicité pour ma maison, ou assimilé, publié en mai de cette année dans le monde diplomatique. Ça s'appelle, cet article s'appelle « Où va la colère ?»« Où va donc la colère ?» Et il assimile le soulèvement à la fête. Et il admet que, donc il répond déjà à la critique que j'en faisais, que incontestablement la fête peut être dangereuse, je le cite. Mais c'est le mot fête qui me gêne. Il le dit, la fête transforme le geste de peur ou d'agression en puissance chorégraphique, où on retrouve nos deux jeunes gens de la Caron. Photographie de Caron, qui dansent effectivement en jetant des cailloux sur leurs contemporains. Moi j'ai du mal. Vraiment, parce que je ne sais pas qui n'a jamais vécu une manifestation violente. La fête, effectivement, au début, ça peut être sympa. Et puis après, quand ça commence à cogner, très franchement, j'encourage pas les enfants à faire la fête comme ça.
Vous avez raison, c'est un positionnement politique, effectivement, mais qui est signé, en l'occurrence, voilà, Georges Duberman, qui défend une certaine vision du soulèvement. Moi, j'aime assez cette idée d'un élan vital, Georges Duberman, qui dit qu'il y aura toujours des enfants, en gros, pour faire le mur. J'aime assez cette idée d'un souffle, comme ça, qui circule. Donc, pour moi, voilà, c'est une exposition assez indispensable. Voilà, où, par contre, il manque un petit peu de jouissance.
Ouais, c'est une expo post-romantique.
Romantique. Je crois que c'est c'est un point de vue romantique. Mmh. Il dit aussi, il y a des morts, il l'a dit sur RFI, je crois, il y a des morts dans l'exposition. C'est pas la fin de l'exposition, car le mouvement même de cette exposition est de dire que ça ne s'arrêtera jamais. Tout ce qui tombe se relève. Bon, moi je veux bien, mais le petit génois, là, s'est jamais relevé. Bon, peut-être... Non, mais c'est... Encore une fois, c'est bien. J'ai longtemps travaillé sur l'art et la politique autrefois, et assez longtemps pour apprécier l'apport qu'il donne à ce corpus et qui est important. Mais c'est pas joli, la guerre.
Bon, ça c'est le mot conclusif. Concernant l'exposition Soulèvement, Georges Didier Berman au Jeu de Paume jusqu'au 15 janvier, se référer, comme Sandra Dancourallet, au gros livre catalogue publié par le Jeu de Paume et Gallimard, avec donc des essais de Nicole Brenez, de Judith Butler, de Marie-Josée Monzin, d'Antonio Negri, et de Jacques Rancière, puis bien sûr de Georges Duberman. J'ai évoqué cette série en cours, édition de Minuit, L'œil de l'histoire, le sixième apparu au printemps, sous le titre « Peuples en larmes, peuples en armes ». Et avant de conclure tout à fait cette émission, le jeu de la dispute, Lucille Como. Vous savez que la France est en attente de connaître la réponse au jeu d'hier soir.
Alors voilà la question. En 1925,
ça fait rire, je ne sais pas pourquoi.
Oui, parce qu'il adore les questions. En 1925, Georges Méliès est ruiné et ne peut plus faire de film. Quel est son métier?
Alors
personne ne répond.
Harry Bellet, vous le saviez?
Non mais je joue pas moi.
Ah bon d'accord, non, c'est la question d'hier, donc ça c'est facile.
La réponse est marchand de bonbons et de jouets, Gare Montparnasse.
Eh oui. Et on fait gagner ce soir des places de cinéma pour un très beau film. Alors là, véritablement, ne ratez pas Taang de Wang Bing, un cinéaste toujours essentiel. Il y a le film sorti aujourd'hui sur les écrans. Quelle est la question, Lucille?
Le premier documentaire de Wang Bing, À l'ouest des rails, parle de l'agonie d'une ville industrielle, la même ville chinoise où lui, il a fait ses études. Quelle est cette ville?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales. Bon, bah, Harry Bellet, vous avez qu'à envoyer un mail à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Sandra Dancourallet, Harry Bellet et Lucille Como, d'y avoir pris part avec moi. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, bien sûr, site sur lequel vous pouvez également réécouter ou podcaster nos émissions, site sur lequel vous pouvez nous écrire un podcast aussi à part pour le petit salon de Lucille Como. Merci à l'équipe qui prépare ces émissions, Virginie Le Duo, Flora Isidore, Josué Morel et Boris Pinault. La prise de son était assurée ce soir par Cédric Châtelus, la réalisation Daniel Finot. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée à la musique en compagnie de Christophe Comte et Hugo Cassavetti, et notre affiche You Want It Darker de Leonard Cohen. Le Lazarus Cast Album, un coffret CD de la comédie musicale Lazarus signé David Bowie, mise en scène par Ivo Van Hove à Broadway et maintenant à Londres, et puis Primitives de Bayonne. Tout cela, c'est pour demain. D'ici là, vos programmes se poursuivent sur France Culture. À 22h15, les discussions du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction.